vous souvenez des cours de mathématiques où vous ne compreniez rien, perdu dans les entrailles des équations, des théorèmes et des probabilités? Et puis un jour, tout s'éclaire. Mieux, les chiffres deviennent vos complices. Vous les domptez, vous jonglez avec, comme une petite revanche sur la vie. C'est celle de Sabina Mehmed, 33 ans, devenue après un parcours du combattant, déontologue d'une grande banque française. Dans la vie, il y a ceux qui héritent et ceux qui méritent, ceux pour qui tout est facile et ceux obligés de se battre pour y arriver. Les premiers récoltent le travail de leurs aînés, les seconds doivent redoubler d'efforts au prix parfois de sacrifices. Et si nous mettions la lumière sur ces compagnons de galère, celles et ceux qui ont tout donné, celles et ceux qui ont tout donné pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Tout l'été sur France Inter, je vous invite à venir découvrir le parcours de ces combattants, leur chemin tortueux parvenu là où on ne les attendait pas, les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem, parcours de combattant.
Bonjour Sabina Mehmed.
Bonjour Nassira et bonjour à tous.
Ravie que vous soyez en notre compagnie pour apprendre à vous connaître en ce début d'après-midi d'été. Pour démarrer notre émission, faisons, si vous le voulez bien Sabina, un petit retour en arrière, allez, de seulement quelques années. Nous sommes le 19 octobre 1987 et c'est le jour du fameux crash financier. Partout dans le monde, les bourses s'affolent, les détenteurs d'actions aussi. Et ce jour-là, c'est aussi celui de votre naissance.
Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Antenne 2. À la une ce soir, nouvelle tornade sur la bourse, baisse de 9% à Paris, lundi noir également sur toutes les places financières européennes. Plus grave encore, ce soir, Wall Street est une nouvelle fois en chute libre à New York. Dans quelques instants, chiffres, analyses et commentaires.
C'est un sacré symbole, ça, d'être né le jour même du crash boursier, le plus grand crash boursier de notre époque contemporaine, pour quelqu'un qui est devenu banquière.
Mais oui, je suis bien née le 19 octobre 1987.
Sabina Mehmed, est-ce que vous vous étiez un jour dit, plus jeune, je serai banquière, c'est ça que je veux faire?
Banquière, non. Mais en revanche, depuis toute petite, je sais que ma mère me disait que j'adorais en fait... jeter tout ce qu'il y avait sur notre table basse et en fait en faire une sorte de bureau administratif. Elle me disait mais c'est pas possible, tu classes des papiers, tu mets des papiers, tu ranges le téléphone et puis tu fais comme si c'était ton bureau. Donc voilà. Me voilà.
Un oiseau siffle dans les branches et sautille gai plein d'espoir sur les herbes de givre blanche en bottes jaunes en fraque noire. C'est un merle chanteur crédule, ignorant du calendrier, qui rêve soleil et module l'hymne d'avril en février. Lustrant son aile qui les suit, l'oiseau persiste en sa chanson. Malgré la neige, le brouillard et la pluie, il croit à la jeune saison. Il gronde l'aube paresseuse de rester au lit si longtemps et, gourmandant la fleur frileuse, met en demeure le printemps. Ce sont les jolies strophes de Théophile Gautier qui datent de 1852 et qui, je suis sûre, rappellent de tendres souvenirs d'enfance à nombre de nos auditeurs. Et à vous également, Sabina Mehmed, pas seulement les mots, mais surtout le son même du chant du merle noir, qui est un des bruits qui symbolise peut-être le mieux votre enfance, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ça berce complètement mon enfance, puisque là où j'ai vécu, dans le peu de chance qu'on avait, on avait malgré tout la possibilité de pouvoir parcourir un jardin de cour.
Et là où vous avez vécu, c'est-à-dire?
Alors, j'ai vécu à Paris. J'ai vécu avec mes parents et mon frère dans une vraie promiscuité. Et c'est vrai que le seul moment intéressant et en tout cas plaisant dans cette enfance qu'on a vécue, c'est que même si on était évidemment bercés d'amour, le fait d'avoir accès à ce petit jardin sur cour, on pouvait entendre les oiseaux, dont le fameux merle, donc le merle. Il berce mon enfance.
Il berce son enfance, mais il venait aussi vous réveiller.
Il me réveillait à des heures juste pas possibles, au point où à un moment donné, je l'ai vraiment maudit. Et c'est vrai qu'encore maintenant, ça me fait assez bizarre de l'entendre. Je l'aime comme je le déteste, finalement.
C'est ça, amour-haine.
C'est ça.
Votre père est d'origine albanaise et turque, Sabina Mehmed. Il est arrivé à Paris dans les années 70.
C'est ça.
Votre mère, elle, est arrivée de Serbie au début des années 80. Que faisaient vos parents quand ils sont arrivés en France ?
Alors, quand ils sont arrivés en France, je sais qu'ils ont pu survivre en travaillant dans la confection. Et plus particulièrement, ils ont beaucoup travaillé dans l'univers de la fourrure et du cuir.
À Paris même, donc.
À Paris, effectivement, dans des conditions que vous imaginez assez pénibles.
Ils vous ont parlé de ça ?
Ils m'en ont parlé un peu, mais c'est vrai que jeune, on a peut-être du mal à comprendre ce qui se passait réellement. C'est vraiment après, en grandissant, qu'on comprend qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'exploitation, beaucoup de souffrance, enfin, les concernant eux, mais aussi leurs compatriotes, leurs familles respectives. Donc, effectivement, c'était une situation assez tragique, mais c'est une situation que, malheureusement, vivent beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent quitter leur pays pour essayer de survivre.
Vous avez vécu dans cette toute petite loge de 30 mètres carrés, je crois.
Exact.
Donc, on est dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, c'était la loge de gardien de votre papa.
C'est ça.
Dans cet immeuble de copropriété.
Exactement. En fait, ils ont pu s'extirper un peu de ce milieu très compliqué et pénible qu'est la confection. Et donc, mon papa a pu trouver une place de gardien d'immeuble, en fait, à Paris 12e.
Vous viviez à quatre dans cette loge.
Ça.
Il y avait vos parents, évidemment.
Exact.
Vous-même, votre frère, qui
c'est
est
ça.
Plus jeune que
exact.
Vous. De 2 ans, c'était comment la vie d'une enfant, d'une ado, à vivre à 4 dans 30 mètres carrés ?
Pendant plus d'une dizaine d'années, c'était honnêtement super compliqué parce que vous imaginez bien que cette promiscuité trop importante faisait qu'on n'avait évidemment pas d'intimité et c'est vrai que c'est... Si au départ, jeunes enfants, on s'y accommodait, en grandissant, c'est là où on a vraiment compris qu'on était en décalage, puisque c'est là où on commence à aller chez les petits copains, chez les petites copines, et on se rend compte de la différence.
Et du coup, on n'invite pas ses petits copains chez soi quand on habite dans une loge ?
On a du mal à les inviter, parce que forcément, il y a beaucoup de comparaisons, et puis il y a une forme de honte. Qui arrive aussi, alors que je pense que mon frère et moi, on a absolument manqué de rien. Et c'est nous rappeler à chaque fois, quand on allait voir nos petits copains et nos petites copines, que finalement, au niveau matériel, on n'est pas du tout à niveau, là.
C'était quoi les conditions de vie, la situation sociale des camarades de classe que vous aviez, que vous fréquentiez dans le 12e arrondissement de Paris ?
Alors, puisque nous étions dans le 12e arrondissement, donc forcément, il y avait quand même, évidemment et heureusement, de la mixité sociale, mais moi, je dois dire que tous mes petits copains et mes petites copines de l'époque, elles avaient leur propre chambre, de grands appartements, parfois haussmanniens, qui étaient vraiment juste somptueux. Donc on était vraiment dans un vrai décalage.
Et à quel moment justement on prend conscience de ce que c'est qu'être un enfant pauvre ?
Je pense que ça a commencé très rapidement à l'adolescence, où là où effectivement on se dit non, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage et je pense qu'avant on est beaucoup trop jeune pour vraiment comprendre les enjeux.
Vous diriez que malgré l'absence de confort, l'absence d'intimité que vous notiez tout à l'heure, avoir grandi et vécu dans le 12e arrondissement, finalement, ça vous a sauvé ?
Ça m'a complètement sauvée. Je pense aussi que de grandir de cette manière, ça fait la femme que je suis aujourd'hui, avec les valeurs que j'ai. Donc, je peux pas prendre ça comme une expérience totalement négative. Je pense que c'est ce qui m'a forgée.
C'est parce que c'est à la fois l'école, mais c'est aussi là où vous habitiez. Parce que vous viviez dans cette loge de gardien, mais il y avait tous les voisins.
Oui.
Qui étaient, eux, de conditions sociales bien différentes de la vôtre.
Oui, tout à fait. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, je les salue, ceux qui sont encore vivants en plus. Mais
peut-être qu'ils nous écoutent.
Peut-être, c'est possible. Et je les remercie. Ils nous ont été quand même d'une grande aide. Ils nous ont beaucoup accompagnés. Quand mon frère et moi, on avait des soucis de santé, je me souviens d'un des voisins qui était kinésithérapeute et qui nous massait, en fait. Et qui était en capacité de nous aider. Une ancienne maîtresse d'école aussi. Honnêtement, c'était aussi quelque part un peu une petite famille. Et donc,
est-ce que vous les revoyez ? Est-ce que vous y retournez parfois pour les saluer et pour se souvenir
alors,
justement de ce temps-là ?
Oui, j'y retourne parce qu'effectivement, mes parents sont restés là-bas. Je suis heureuse d'y retourner parce que forcément, tous mes souvenirs émergent. Et s'agissant des anciens voisins, malheureusement, beaucoup sont décédés.
Thank you. C'était le titre « Une autre vie » signé Iliona.
Nassira El-Mouadem. Parcours de combattant sur France Inter.
J'en profite pour remercier Valentine Cheudebois pour la programmation musicale, Mao de Butler pour m'avoir aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise et Selim Gribi à la technique. Et vous, Sabina Mehmed, est-ce que vous aussi, vous avez rêvé d'une autre vie ?
J'ai rêvé d'une vie avec un peu moins de soucis. C'est bizarre à dire, mais c'est la vérité finalement. C'est d'essayer d'avoir un jour un esprit plutôt libre pour s'adonner à des activités intéressantes, à essayer de s'éduquer, se cultiver, etc. Et ne pas être complètement dépassé par les événements et subir sa vie. Donc oui, ça me parle.
This is the Voice of America, Washington DC, signing on.
Je vous vois sourire, Sabina Mehmed.
Les gens, ils doivent se dire, mais pourquoi on entend le générique de Voice of America ?
Déjà, il faut le savoir, effectivement, c'est le générique de la chaîne américaine Voice of America, sur laquelle vos parents étaient branchés.
Non-stop, en fait, il faut se situer dans les années 90. Alors, pour être honnête, je ne sais plus si c'était pendant la guerre de Bosnie, qui a eu lieu vers 1995 ou
1992 pour le début, oui. Jusque effectivement 1995.
C'est ça. Et effectivement, mes parents étaient branchés non-stop sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de chaîne satellite, puisqu'on avait installé une parabole, donc on avait accès à quelques chaînes satellites.
Nous aussi, à la maison, mes parents étaient branchés sur la chaîne publique du Maroc, mon pays d'origine, en alternance avec Question pour un champion et le JT français. Pour mes parents, c'était un des seuls liens concrets, vivants et quotidiens avec leur pays. À l'époque, je n'avais pas conscience à quel point c'était important pour eux.
Et effectivement, pourquoi ils étaient branchés non-stop dessus, c'est que en fait, on avait des infos plutôt assez live sur ce qui se passait en ex-Yougoslavie. Ils étaient mais juste complètement sidérés par ce qui se passait, complètement préoccupés aussi pour nos proches.
Il faut rappeler, rappelons juste que le conflit, il opposait effectivement les Serbes, les Croates et les Bosniaques.
Tout à fait.
Il a fait près de 100 000 morts en l'espace de 3 ans, une guerre aux portes de chez nous.
Exact.
Avec plus de 2 millions de réfugiés. Et c'est évidemment les pays d'origine de vos parents.
Donc, oui, tout à fait. Je pense que mes parents avaient une grande crainte, c'est que ce conflit arrive jusqu'aux portes de leur propre famille. Parce que c'est assez compliqué en ex-Yougoslavie. Forcément, il y a plusieurs pays. Ma mère vient du sud de la Serbie et mon père est né en Macédoine. Tout ça formait la Yougoslavie auparavant. Nous, dans cette région, donc de là où vient ma mère, en fait, c'est une région assez autonome qui a gardé les traditions ottomanes, dont la religion musulmane. Mmh. Et forcément, comme un nettoyage ethnique était déjà bien perpétré en Bosnie, on avait vraiment peur que ça puisse partir aussi dans le sud de la Serbie. Donc, ils étaient complètement effarés.
Quel souvenir vous gardez, vous, de cette période d'inquiétude, d'extrême angoisse de vos parents qui étaient là, en live, à regarder ce qui se passait à la télé, du haut de vos 7 ans? Vous aviez 5-7 ans à l'époque.
Oui, c'est
ça. Quel souvenir vous avez?
Comme d'habitude, je n'avais pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passait, mais à voir les visages de mes parents complètement, blancs, quoi. Ils étaient pâles, ils étaient choqués. Je me disais que quelque chose de grave se passait, mais je ne comprenais juste pas pourquoi.
Votre père, à l'époque, vous amenait dans les manifestations dans lesquelles il allait pour justement dire non à la guerre.
C'est vrai que tout petit, on a été amené comme ça à se balader. Alors nous, on était contents parce que du coup, on voyait plein de gens, il y avait des drapeaux, c'était génial. On savait pas du tout pourquoi. Je les remercie aussi pour ça parce que forcément, ils m'ont éveillée, ils m'ont éduquée aussi à l'autre et à ce qui peut se passer quand on essaye de... Voilà, de tuer des ethnies et voilà, c'est révoltant et je continuerai à me révolter comme ils l'ont fait, quoi.
Et à garder aussi le lien avec ces pays et ces cultures d'origine.
Tout à fait.
Vous parliez quelle langue à la maison ?
Alors, on parlait particulièrement le serbo-croate, ce qu'on appelle maintenant le serbo-croate.
Que vous parlez donc couramment ?
que je parle couramment, c'est effectivement ma langue maternelle. C'est une très très grande fierté, bien sûr, de maîtriser une autre langue que des langues classiques comme l'anglais ou autre. Et donc, j'espère que si un jour, voilà, l'occasion m'est donnée d'être maman, je pourrai aussi transmettre cette langue à mes futurs enfants.
Et donc, toujours avec vos parents, vous parlez le serbo-croate ou vous mélangez le français et le serbo-croate comme on peut faire dans beaucoup de familles immigrées?
Pour vous avouer tout, je pense que 90% du temps, on parle évidemment français. Et j'aime pouvoir répondre à mes parents en serbe et inversement. Et voilà, c'est
quand vous êtes énervée, par exemple, vous parlez en serbo-croate.
Voilà. Ou quand je souhaite que d'autres personnes ne comprennent pas, c'est vraiment c'est l'astuce.
Et à la maison, il y a donc la langue pour garder le lien avec le pays d'origine. Et il y a quoi d'autre qui permet justement juste de garder ce ciment-là?
La cuisine, bien sûr.
C'est quoi alors les spécialités culinaires?
Les spécialités culinaires se rapprochent évidemment des spécialités culinaires turques que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de goûter. Donc ça va être beaucoup de feuilletés, beaucoup de grillades, beaucoup de choses qui rappellent le soleil finalement aussi. Pas beaucoup d'association terre-mer parce que finalement en Serbie, la mer elle est plutôt du côté du Monténégro.
Et alors comme moi aussi avec ma famille qui nous nous rendions tous les ans au Maroc en voiture pour aller voir la famille, c'est aussi cette épopée là que vous faisiez.
Bien sûr.
Et racontez-moi parce que moi j'ai envie d'être avec vous dans la voiture.
Ça marche. Après être chargé comme jamais, on arrive à passer les frontières de plusieurs pays, donc on fait en général des trajets entre Paris et soit donc la région de ma mère qui s'appelle Novi Pazar, qui est donc dans le sud de la Serbie. Et puis parfois, on a poussé plus loin pour aller jusqu'à Istanbul, en Turquie.
Ah ouais.
Et donc, c'est un voyage de plusieurs jours.
Combien de jours pour aller juste d'abord en Serbie?
Tout dépend de si vous voulez vous arrêter pour dormir ou pas. Je vous avoue que je connais des gens autour de moi qui aiment faire ça d'une traite. C'est horrible, mais ils le font.
J'en connais aussi.
Voilà.
De l'autre côté.
C'est ça. On peut faire ça en 2-3 jours. Et puis pour la Turquie, c'est quand même un peu plus important. Donc on a parfois bien traîné pour arriver jusqu'à 5 jours de voyage.
Pas d'inquiétude de la part du papa et de la maman?
Si, forcément. En tout cas, les premières années, il y avait évidemment beaucoup de corruption dans certains pays. Moi qui suis maintenant déontologue anti-corruption, donc c'est juste parfait. Mais en fait, si vous voulez, parfois il y avait des faux checkpoints qui étaient installés.
Où ça?
On en a surtout eu pas mal en Serbie et au Monténégro, quand il nous arrivait de traverser le Monténégro. Et donc effectivement, pour passer, il fallait présenter son passeport, mais il fallait s'assurer d'avoir un petit billet à glisser. Hein, ou alors des paquets de cigarettes. C'est déjà arrivé, il y a eu aussi quelqu'un de mal intentionné qui nous avait poursuivi sur des routes du Monténégro.
Mais j'ai l'impression que toutes les familles immigrées ont connu ça à un moment ou à un autre. On a quasiment tous les mêmes histoires à raconter, alors même qu'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent.
C'est ça. Et donc, effectivement, c'était pas de tout repos. Mais on en garde des souvenirs plein les yeux.
Et oui, et surtout que maintenant on fait les voyages en avion.
Voilà.
Plus en voiture, c'est beaucoup de nostalgie. Comment vous vivez, vous, Sabina Mehmed, tous ces débats actuels, disons-le, assez rances, autour de l'immigration, de l'identité nationale, vous qui portez toutes ces histoires d'immigration, en tant que Française, comment vous les vivez?
Pour être honnête, je ne me reconnais absolument pas dans ce qui est raconté parfois par certains qui se disent aussi porter certaines valeurs. Je trouve ça juste aberrant qu'on vienne à toujours discuter des mêmes sujets qui sont juste stériles, alors que la réalité, enfin, c'est ma réalité, mais je pense que c'est la réalité de centaines de milliers de personnes, au moins en France. Oui, effectivement, on a des personnes issues de l'immigration qui n'ont pas posé problème, qui ont réussi à s'intégrer parfaitement dans la société, qui contribuent à la société, qui paient leurs impôts, parfois beaucoup d'impôts. Et je comprends pas pourquoi on est encore bloqué sur des débats ou sur des symboles vraiment stériles portés par des sujets sur l'immigration.
On sait d'où on vient sans savoir où on va. Avoir l'état de sérieux et la révolution. On se demande sincèrement à quand les mettre la révolution. Et du coup, si je pose autant de questions, c'est que j'ai pas les solutions. Que faire quand y'a rien à la clé de nos bonnes résolutions? Ça peut plus durer, combien se seront jurés pour finir sous une pierre tombale ou devant les jurés? Dommage qu'il n'y ait pas toujours de récompense à nos efforts. Qu'à la moindre erreur, la justice nous fasse payer le prix fort. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les moyens du bord. Mais la devise reste sauf ce qui peut encore l'être, femme et gosse d'abord. Je pleure pas sur mon sort, y'a pire que moi. À l'heure où tu m'écoutes, au-dessus de ta tête, t'as peut-être plus de poids. Mon job n'est pas de morcir, tableau. De toute façon, c'est pas de ma faute si la misère meurt le pire des fléaux. On cherche pas à s'enrichir sur les malheurs des autres. Toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres. Au cours d'une vie, y'a tout un tas de trucs qui s'oublient pas. Dès le décès de ton gosse avant qu'il puisse faire ses premiers pas. Ses premiers pas. Notre issue finale, seul l'avenir le dira. Du seul c'est comment ça se finira ou négociera. Mystère et suspense, soit en col, soit en Benz neuve. A fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve. Et toute une flopée de petits sacs derrière. La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière. Quand je quitte mes gars, qui dit que je vais les revoir. Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir. T'es ou d'une fan qui aurait pété les plombs. Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm. Tout mec incertitude, c'est l'embrouille. Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes. Dédié à ceux et celles qui mènent des vies chiens. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF, dégâts plus vrais que nature. Ce côté pied sur terre et à la fois immature. Quand je plane comme Bob Marley, je sais plus si c'est moi ou la route qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes voeux. Mais si je crève, j'aurais vu naître leur série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant de dire au revoir à jamais. J'ai sûrement tout un tas de trucs à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe, tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout ça. Emmerder le système, peu importe la manière, forte ou douce. Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tous emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine.
Il fallait que je maîtrise les mots pour me défendre, car ce sont des munitions. Si t'as pas les mots, t'es baisé. Fallait que je brûle mes illusions. Fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame. On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme. La mienne, un mic, tu filmes la vie comme Spike. Fume la nuit non-stop. Fallait que je décompresse, non de code donne. Fallait que je le dise, oh, fallait que je vise. On avait allumé un feu, fallait que je l'attise. Fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, y'a pas de magie. Même si je parle au passé, c'est du futur qu'il s'agit. Il fallait pas que je sois trop feignant, car je ne suis pas né dans la soie. Fallait que j'y croie et pas en plaignant. Mon prénom c'est François, le régnant sur rien. Fallait bien que je parte, fallait que je revienne les mêmes plaines. Fallait que je le marque, fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit. Fallait que tu viennes à notre rencontre, peu importe quand, peut-être ce soir. Fallait qu'on garde espoir, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Fallait qu'on soit sincère, pas dire tout ce qui pouvait plaire. Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis, jusqu'à la mort, mon amour. Il le fallait, et tant mieux s'il le fallait bien. Je reste anxieux, ne croyez pas que pour moi tout allait bien. Tapez main 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien.
Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce. Chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où les gens disent tout s'emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage.
Sommes-nous faux ou vrais, à ton avis, bon ou mauvais? Demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible, normal, ce n'est pas eux les cibles. Au tribunal, si jamais leur nom qu'on cite. Ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal-être. À cause d'une vie sans équilibre, ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre. Tout ce que je raconte est minime. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni à croire à la cocaïne. Je suis simple, comme mes frères et les tiens, sans rire. Et je sais qu'on nourrit tous le mal et fait la grève de la faim au bien comme à Ibrahim. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où on emmerde le système, de là où les rues craignent, de là où la haine imprègne, de là où les gens freignent, de là où le bien et le mal règne.
C'était Mystère et Suspense de la Funky Family.
France Inter, parcours de combattants. Nassira El Mouadem.
Sabina Mehmet, déontologue dans une grande banque, vous êtes toujours en notre compagnie et c'est vous qui avez choisi cette chanson de la Funky Family. Bon, on va pas se raconter d'histoire, on était toutes les deux à fond, en train de danser, en train de chanter. C'est une chanson de génération, cette chanson-là. Elle date de 2001, vous aviez à l'époque 14 ans, en pleine adolescence. Le titre est issu de l'album Art de Rue, qui est un très 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 grand classique du rap français. Et il a été produit à partir d'un sample de la chanson I Want to Hold You Back du groupe de rock'n'roll californien Toto. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson-là?
Alors, fermez les yeux, parce que ça va être magique. Ferme. Elle est poignante, parce que déjà, si vous avez prêté attention aux paroles, vous pouvez qu'avoir des frissons. Et ensuite, surtout, c'est parce que c'est une chanson que j'écoutais, en fait, lorsque je prenais le métro pour me rendre à des cours, avec une telle rage, avec des larmes aux yeux, finalement, parce que j'avais tellement envie de m'en sortir, j'avais tellement envie de construire un parcours qui me permette, justement, de me sentir libre et de pouvoir faire ce que je veux, que vraiment ça me donnait énormément de force. Donc voilà, j'avais des yeux perdus en fait quand je passais par Stalingrad pour me rendre à mes cours. Et donc effectivement, j'écoutais cette chanson et j'avais mes yeux perdus sur les quais de Stalingrad.
Quel souvenir vous gardez, Sabina Mehmed, de vos premières années de scolarité ?
Très compliqué. Oh là là, c'était vraiment
très compliqué. Ça veut dire quoi,
très compliqué ? Bah, c'est simple, en fait, ça commence dès la maternelle où effectivement, à vouloir trop parler serbo-croate, on en finit par ne pas assimiler le français, malheureusement, au tout début. Je pleurais pendant mes cours de maternelle parce que je ne comprenais pas ce que le maître disait. Et en fait, mes parents pensaient que il se passait sûrement quelque chose de grave, voire peut-être de l'abus. C'était pas du tout ça. C'était juste que je ne maîtrisais pas, malheureusement, le français dans mes toutes premières années.
Et que vous étiez tellement angoissée que vous en pleuriez.
Oui, bien sûr. Oui, parce que qu'est-ce qu'un enfant peut faire d'autre, en fait ? Il n'allait pas taper le maître ou quoi que ce soit. Et heureusement, ça s'est calmé. Mais alors après, les premières années de primaire, c'était compliqué aussi parce que même si le français était maîtrisé, d'ailleurs très bien maîtrisé finalement, le souci ça a été les mathématiques. On écrivait sur mon bulletin que j'avais des soucis de logique et de mathématiques. Et ça, ça a été, je pense, le début de grandes blessures en fait dans mon parcours.
Et ça vous poursuit toute la scolarité, ça ?
En tout cas, oui, ça m'a poursuivi bien sûr parce que les maths n'ont jamais été mes amis. Mais alors, je m'étais juré finalement, comme on dit chez moi, de tout arracher pour justement avoir la vengeance que je voulais.
Et il y a la fameuse étape de l'orientation.
Oh là là.
On est au collège. C'est synonyme de quoi pour vous cette étape-là ?
Alors, ça a été une vraie descente aux enfers. Pourquoi ? Parce que je confie en gros mes projets à quelqu'un qui normalement doit me guider, doit m'aider justement dans mes choix.
Et qui est cette personne ?
Le fameux ou la fameuse conseillère d'orientation. Cette fameuse personne qui vous dit que finalement c'est mieux pour vous de faire quelque chose d'assez technique et de professionnel et de raccourcir un peu la vie scolaire.
On vous suggère de faire quoi concrètement ?
Coiffure. Par exemple, des écoles de coiffure.
C'est ce qu'on vous propose ?
C'est ce qu'on m'avait proposé effectivement au collège. Et pourtant, mes notes n'étaient pas si catastrophiques que ça. Hein.
Et mais, vous vous demandiez à faire quoi ?
Mais moi, justement, j'avais pas d'idée précise. Mais je me disais que voilà, je voulais intégrer des grandes écoles et puis et aller au plus loin, finalement. Dès le départ, ça a été voilà, une porte fermée. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Avec du recul, je me dis que c'est ce qu'il y a de plus dangereux, en fait, au sein du parcours scolaire. C'est d'avoir quelqu'un qui, en fait, par je ne sais quel biais, est en capacité de peut-être tuer votre carrière. Juste parce qu'elle a décidé que pour vous, ce serait plus simple de faire quelque chose de technique, de professionnel, ou en tout cas d'assez raccourci.
Comment vous l'expliquez ? Vous l'expliquez parce que vous n'avez peut-être pas su dire exactement ce que vous voulez, ou c'est parce que vous avez été victime tout simplement de préjugés liés à votre condition sociale, liés au fait que vous soyez tout simplement une fille d'immigrée ?
J'aurais aimé dire la proposition 1, mais j'ai bien peur que ce soit la proposition 2. Et pour autant, même si je suis blanche avec des yeux bleus clairs...
Très beaux yeux.
Merci beaucoup. Mais finalement, malgré tout, je pense que ça a été aussi lié à des préjugés sur notamment ma condition sociale. Et le fait qu'effectivement, mes parents ne roulaient pas sur l'or, ils n'avaient pas des grands salaires. Et que du coup, ce serait peut-être plus simple que l'enfant arrive vite à maturité pour commencer à faire entrer de l'argent. Et puis c'est tout. Mais non, en fait... Nous aussi, on a le droit d'avoir de grandes ambitions et de pouvoir construire des carrières intéressantes.
Et justement, vous commencez à le faire et vous déjouez aussi, finalement, les probabilités, oui. Les statistiques. C'est l'après-bac, vous commencez un BTS dans un établissement privé,
c'est
financé
ça.
Par les petits boulots de votre maman. Et puis la Sorbonne.
Exact.
En droit, puis l'économie, puis la finance. Et alors là, le décalage est abyssal avec vos camarades.
Ah mais complètement, c'est-à-dire qu'à chaque fois où on arrivait sur des sujets de mathématiques, de statistiques, de séries temporelles et autres super matières scientifiques intéressantes, le décalage était effectivement abyssal. Je n'avais pas les bases, je n'étais pas en capacité de ce qu'on me faisait comprendre, de raisonner comme ces autres personnes. Ces autres personnes soit avaient fait des prépas économiques, HEC ou autres, et en tout cas avaient vraiment des solides bases en matière scientifique. Ce n'était pas le cas pour moi, donc il fallait que je redouble d'efforts, il fallait que je m'accroche, et surtout que je n'abandonne pas.
Et qu'est-ce que vous faisiez ? Vous dissimuliez le décalage ? Vous dissimuliez vos difficultés ? Où vous arriviez à pouvoir les confier à vos camarades avec lesquels peut-être vous êtes devenus proches. Comment on réagit en fait face à cette situation-là ?
Déjà, on est en colère. On est en colère, on a beaucoup de rage parce qu'on se dit c'est pas possible, je vais pas m'arrêter là en fait, je vais pas donner raison à ceux qui ont souhaité que je m'arrête à un bac ou un bac plus 2. Je veux aller le plus loin possible et ce ne sont pas des matières scientifiques qui vont m'arrêter. Donc ce que j'ai fait, c'est que évidemment j'ai adopté une stratégie où les matières qui faisaient appel à peu de matières scientifiques, typiquement des matières en économique, de théorie, d'histoire, là pour le coup j'essayais d'attraper les meilleures notes.
Vous donniez tout pour avoir les meilleurs résultats.
Je donnais absolument tout, mais vraiment corps et âme. Et en revanche pour les autres matières, ce que je faisais, c'est que il y a eu effectivement des camarades qui ont été vraiment sympa et qui ont donné un peu plus de leur temps pour m'accompagner. Donc je me suis accrochée et c'est comme ça que j'ai décroché mes diplômes. Mais vraiment, j'ai saigné. Hein.
Et au prix même de votre santé, puisque oui. Physiquement, vous tombez gravement malade.
Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'un été, durant mes cours de master en finance, donc j'étais en master 1, donc pour préparer la dernière année qui est le master 2, je tombe malade et je suis hospitalisée pendant une semaine, alors que les choix décisifs se font pour justement son parcours et décrocher le Master 2. Donc là, pour le coup, pour moi, c'était juste pas possible, mais on comprenait pas ce que j'avais et comment j'avais pu contracter cette maladie. Moi, je l'ai compris ensuite, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été ce cumul de stress, de fatigue, de rage qui, finalement, a déteint sur ma santé. Donc, je me suis clairement rendue malade à ce moment-là.
Qu'est-ce qui fait qu'on tient quand même le coup ?
La rage. C'est cette volonté de ne jamais lâcher l'affaire parce que je voulais, c'est peut-être une question de fierté aussi, je peux me l'avouer. Je ne voulais pas donner raison à ceux qui avaient déjà dit non pour moi. Mmh. Voilà, je voulais en tout cas l'expérimenter de moi-même et se dire bon bah OK là Sabina, tu ne peux plus en fait, t'es allée au-delà de tes limites, c'est juste pas possible. Mais d'avoir déjà un mur alors qu'on n'a même pas essayé, c'était juste pour moi pas possible en fait de l'entendre. Donc j'ai essayé tant que j'ai pu de le faire et surtout j'ai essayé de rendre fière ma famille parce que, comme on l'a dit en fait, mes parents forcément ne roulaient pas sur l'or mais se sont aussi énormément sacrifiés pour que je puisse arriver là où je suis.
Et justement, vos parents, ils comprennent ces choix-là au point même que vous mettez physiquement en danger en fait. Il y a une compréhension de leur part ou à un moment ils vous disent « arrête, ça suffit ».
Oui, c'est vrai que là, quand je suis tombée malade, effectivement, enfin, ils souhaitaient évidemment pas que je sois dans cet état-là.
Mais ils avaient peur, j'imagine.
Et ils avaient évidemment énormément peur, mais je voulais absolument aller jusqu'au bout et ils m'ont énormément soutenue et bien sûr que je leur en remercie et je leur en remercierai toute ma vie.
C'est une sacrée revanche sur les fameux livrets scolaires et notamment les commentaires sur les mathématiques, d'être diplômée de master finance après tout ça. Et vous entrez chez BNP Paribas et là, on ne vous arrête plus, mission d'intérim, vous êtes même recrutée pour une mission d'un an à New York.
Oui.
Puis vous êtes embauchée en CDI et vous êtes même recrutée dans un programme de jeunes talents de votre banque pour vous préparer à devenir prochainement peut-être dirigeante de l'entreprise. C'est une reconnaissance, ça, à la fois pour évidemment le travail que vous avez mené, mais aussi une reconnaissance des pairs et de ceux avec lesquels vous travaillez au quotidien.
C'est ce que j'essaie de continuer à construire en fait au sein de mon entreprise. J'ai essayé de m'attacher à des personnes qui ont continué à croire en moi, même si j'avais peut-être prouvé déjà des choses sur mon parcours académique. Reste que sur le parcours professionnel, c'est quand même tout un autre monde aussi. L'adversité, elle y est bien sûr super présente.
De quelle manière ?
Alors, mais, disons qu'on va être aussi confronté à des différences en termes de milieu social, de valeurs, de façon de fonctionner. Et donc c'est vrai qu'il faut avoir une capacité d'adaptation énorme. Et puis il faut rappeler que je suis une femme aussi. Donc une femme qui a de l'ambition, qui souhaite aller au bout de ce qu'elle peut faire et d'être reconnue en tant que telle, il en faut du courage. Il en faut.
Pour préparer cette émission, Sabina Mehmed, je vous ai demandé, comme je le fais avec tous mes invités de Parcours de combattants, de nous donner le nom d'un enseignant, d'un prof, d'une personne, tout simplement, qui a compté pour vous. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est Jézabel Coupé-Soubéran. Elle est économiste, elle est aussi enseignante à la Sorbonne et elle vous a laissé un message vocal. On l'écoute.
Chère Sabina, tout d'abord, je vous félicite pour votre parcours et je voudrais vous dire que cela me rend fière d'avoir été là, à un moment donné, au bon endroit, pour allumer une petite lumière et éclairer votre chemin. Ça donne du sens à ce métier que j'ai choisi, celui d'enseigner, de former, de partager, et vous n'imaginez pas à quel point ça me forme moi-même. Ensuite, Ce que je voudrais dire, c'est que je n'ai fait que mon travail, celui que l'on fait dans une institution qui s'appelle l'université et que font comme moi tant d'autres collègues. L'université est à mon sens le dernier bastion de l'ascenseur social. Ce bastion est en danger par manque de moyens, par manque de considération de nos dirigeants qui la connaissent mal parce qu'ils n'y ont pas été formés. En danger aussi du fait d'un dispositif qui s'appelle Parcoursup, qui en restreint l'accès en l'ajustant aux trop faibles moyens dont nous disposons. Et si on laisse l'université s'affaiblir autant et s'atrophier, des parcours comme celui de Sabina, aussi méritantes soient-elles, ne seront plus possibles. Voilà, c'était mon big up à Sabina et à l'université qui l'a formée. Plein de bonnes choses, Sabina, pour la suite de votre chemin, que je vous souhaite plein de lumière et de partage. Au revoir.
Voilà le message de votre enseignante à la Sorbonne.
Gisabelle égale à elle-même, donc une femme formidable. Et effectivement, elle a raison de nous alerter sur les dangers que pourraient courir les futurs étudiants qui ne pourraient ne plus s'asseoir sur les bancs sur lesquels moi-même j'étais assise pour essayer de construire ma carrière. Je pense toujours qu'il y a des enseignants qui ont la capacité d'allumer les petites lumières sur certaines personnes. Donc j'espère que ce sera l'occasion aussi pour les futurs étudiants.
Sabina Mehmed, je le disais, vous êtes déontologue au sein d'une grande banque française. Vous êtes d'ailleurs seulement 6 à occuper ce poste au sein de votre établissement bancaire. Alors, j'imagine qu'on est beaucoup à ne pas savoir ce que ça veut dire être déontologue.
J'aime à penser que nous sommes un peu, finalement, des sortes de policiers qui aidons et protégeons notre fameuse banque.
Avec l'idée d'être un vecteur de vertu dans un monde lié à l'argent.
Exactement. L'idée, c'est de faire de l'argent, oui, certes, mais dans de bonnes conditions, avec des règles éthiques et de ne pas s'adonner à des activités qui pourraient être évidemment contraires aux lois et réglementations. Dans l'idée qu'on se fait d'un banquier ou autre, on oublie cet aspect, mais il est fondamental.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire spécifiquement cette mission-là? Parce qu'il y a 10 000 métiers dans la banque.
Bien sûr.
Celui-ci, précisément, c'est quoi?
J'ai l'impression que ce que je fais, ça donne du sens, finalement. Faire du chiffre pour faire du chiffre, bon, c'est très bien. Et puis, les rémunérations, elles peuvent s'accompagner aussi. Me dire que le matin, je suis en capacité, quand je me lève, de pouvoir réfléchir à un meilleur dispositif pour améliorer ce qui se passe au sein de la banque et éviter qu'on contrevienne de façon dangereuse. Là, pour le coup, moi, je trouve que ça donne du sens. Et j'ai l'impression de servir à quelque chose.
Vous avez utilisé tout à l'heure un mot qui m'a marqué, où vous avez parlé d'ambition. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup ou parfois à tâtons. Vous, visiblement, ce n'est pas un problème. C'est quoi la prochaine étape pour vous?
C'est vrai que parler d'ambition quand on est une femme, ça peut étonner. Et je sais que même certains de mes collègues sont assez étonnés de la rage de vaincre que j'ai. Mais ça ne doit pas être tabou pour une femme. Je compte continuer à construire ma carrière au sein de ma banque et j'espère bien aller jusqu'au bout de mes limites. Donc je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je ne veux plus avoir peur d'être une femme, d'avoir de l'ambition, de venir de là d'où je viens et malgré tout d'être en capacité de donner le meilleur. Et malheureusement, je constate encore que beaucoup de femmes autour de moi ont peur de leurs ambitions. En fait, elles les cachent. Ça vaut aussi pour des rémunérations qui ne sont pas du tout parfois égalitaires. Et ça, je trouve ça juste scandaleux et aberrant qu'en 2021, on soit encore dans ce type de schéma. Donc j'espère que les femmes qui nous écoutent continueront à lutter et surtout qu'elles n'aient pas peur et qu'elles ne s'en cachent pas. Parce que personne ne le fera pour elles finalement, c'est tout simplement ça.
Et on vous souhaite aussi de ne plus le cacher, de ne pas le cacher et de continuer à revendiquer vos ambitions, Sabina Mehmed. Merci beaucoup Sabina Mehmed de vous être prêtée au jeu de cet entretien à la fois intime et politique. Bonne continuation à vous. Et il y a fort à parier que nous vous retrouverons parmi les dirigeants du monde bancaire dans les prochaines années. Quant à vous, chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, pour une rencontre avec un nouveau parcours du combattant.
When winter comes and food is scarce, we'll warm our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly. consequence. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away. When winter comes, I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. Summer's gone, we'll fly away and find the sun. When winter comes and find the sun. When winter comes.